Dans cette vidéo, on se fait un petit récap de la sortie du Framework 13 Pro, tout ce qu'on sait à date, parce qu'il n'est pas encore sorti, il est pour le moment en précommande et il y a déjà des ruptures de stock au niveau de certains processeurs, donc au niveau de la config, ce qu'on sait sur le châssis, ce qu'on fait sur la portabilité d'une ancienne version. Malheureusement, je n'ai pas l'ordinateur avec moi, si vous cherchiez une vidéo avec quelqu'un en français qui avait l'ordinateur, c'est pas mon cas, mais si vous mettez plein de likes sur cette vidéo et plein de commentaires et plein de vues et que vous la partagez, bah peut-être que Framework se dira « Ah bah tiens, il a une petite audience sympa, on va peut-être lui envoyer un ordinateur et comme ça je pourrais faire une vidéo dessus. » Bref, ce qu'on sait à date, il y a trois grosses nouveautés, en fait il y a deux grosses nouveautés pour moi, il y a le châssis et la partie processeur sur Intel, et derrière il y a des conséquences de tout ça. Pourquoi les conséquences? C'est qu'en fait sur le châssis, bah, c'est un châssis monobloc en aluminium CNC, donc ce qui fait qu'on va retrouver un petit peu cet esprit premium qu'on pouvait avoir par exemple sur les MacBook Pro. Moi je viens de MacBook Pro, vous avez peut-être vu ma vidéo il y a quelques mois, je suis passé sur un Framework 16. Alors c'est pas un 13, on est d'accord, mais c'est vrai que quand je suis passé dessus, le fait qu'il y ait des séparateurs qui bougent un peu, le fait de que ce soit pas monobloc, hein, et là c'est le cas avec le 13 Pro, mais vous avez des choses qui vous donnent un sentiment un peu pas cheap, hein, parce que le 16 est quand même très premium quand même, et le 13 je ne l'avais pas testé, mais qui fait que ça bouge un peu dans tous les sens. L'acier monobloc comme ça l'aluminium monobloc va donner cette sensation un petit peu qualitative. Ça bouge pas, les gens ont fait des tests dessus, quand tu appuies sur le clavier, voilà, ça ne s'affaisse pas, voilà, il y a ce sentiment-là un peu premium déjà sur la partie châssis, donc c'est le premier truc, on le voit ici hein, sur la petite présentation, châssis entièrement en aluminium CNC, le nouveau châssis anodisé graphite à partir d'un bloc d'aluminium, etc., offre une durabilité accrue sans compromettre la compatibilité, donc il est compatible aussi avec, donc ça on en parlera aussi un petit peu après, avec le laptop 13. Vous pouvez emmener tout ce que vous aviez sur le laptop 13 à peu près, sauf la partie ventilation et tout, mais on regardera la portabilité. Vous pouvez l'emmener sur le 13 Pro, et l'inverse est vrai aussi, à peu de choses près. Et surtout, la grosse nouveauté, si on regarde au niveau de la config, on fera une config à la fin. Malheureusement, on n'aura pas la plus grosse config, parce qu'il y a déjà de la rupture de stock, notamment sur le processeur Ultra X9. Mais si vous regardez la grosse nouveauté, à part ce châssis en monobloc, c'est surtout... le passage sur Intel. Alors le passage sur Intel, non, hein. On a toujours AMD Ryzen AI, la série 300, qui est disponible, qui est historiquement sur les 13, qui est historiquement sur les 16, qui est pas sur les 12, parce qu'on était sur de l'Intel sur les 12, si je dis pas de bêtises. Là, on a toujours la possibilité, s'il y a besoin, de partir sur une config AMD, avec dedans une intégration iGPU équivalent, bon, c'est pas équivalent, c'est 890M dedans de Radeon, et là, vous avez... Au niveau CPU, on passe sur les nouveaux CPU Ultra, la série Ultra, donc 5, X7, X9 qui est plus disponible, je le disais. Au niveau iGPU, c'est le B390 Panther Lake qui, a priori, d'après les premiers benchmarks, en tout cas, il y en a qui l'annoncent sur quasiment équivalent, certains parfois, à des dedicated GPU sur des petites cartes graphiques dédiées mobiles, donc les versions mobiles. À prendre avec beaucoup de pincettes, parce que vous avez les benchmarks de l'autre côté qui le comparent plus ou moins à beaucoup mieux que le 890M, mais pas non plus aussi hypé que certains autres benchmarks. En tout cas, ce processeur va permettre d'apporter quoi ? Va permettre d'apporter de l'autonomie, 20 heures d'autonomie annoncée. Si on retourne, donc ça c'était mon panier que j'ai fait tout à l'heure, on le refera à la fin, mais si on retourne sur... le 13 Pro en savoir plus, ici on voit 20 heures d'autonomie, ils avaient mis en ligne une vidéo où ils lancent, ils avaient mis en ligne une vidéo YouTube sur laquelle ils lancent une vidéo YouTube en 4K, alors c'était pas une vidéo YouTube, c'était une vidéo en local, et ils la lancent et ça tourne 20 heures en lecture de vidéo, un petit peu moins sur au niveau des caractéristiques, je sais pas si on les aura ici, au niveau de l'autonomie, ça tourne un petit peu moins longtemps quand on fait une visio par exemple, ou quand on fait d'autres choses, c'est vrai que la vidéo c'était un petit peu le test le plus complaisant entre guillemets, mais 20 heures c'est quand même solide, et ça on le sait de toute façon si vous connaissez un petit peu le matériel, je suis pas un expert mais je me suis documenté depuis la sortie de cet ordi, que les nouveaux processeurs Intel permettent cette autonomie. Voilà, c'est vraiment grâce à ça, c'est pour ça que je disais que la grosse nouveauté c'est le processeur, parce qu'il va permettre et l'autonomie de 20 heures et il va permettre aussi une puissance graphique vachement plus évoluée que ce que l'on a sur les AMD Ryzen, puisque sur le 13, vu la compacité du châssis, on peut pas mettre de dedicated GPU, on peut pas mettre de carte graphique dédiée, comme on pourrait l'avoir sur le framework 16, ou quand vous faites une config, c'est ce que j'ai, moi, on peut mettre une GeForce RTX 5070, ça vous fait une petite extension derrière un peu plus grosse, et vous choisissez par exemple ici au niveau Expansion Bay Module, voilà, de venir choisir une carte graphique RTX 5070, qui pour mon cas, est bien pratique, pas pour la partie jeu vidéo, hein, peut-être que vous ce sera pour la partie jeu vidéo, moi pour la partie jeu vidéo ça pourrait me plaire, je me suis pas encore chauffé à faire un setup là-dessus, mais c'est surtout pour la partie vidéo tout court, montage vidéo, j'utilise DaVinci Resolve, qui est plutôt un logiciel qui tourne sur GPU, sur la partie CPU, il a rien à voir, lui il vous aidera pas du tout, donc si vous avez pas de GPU, c'est même pas la peine, et le IGPU d'AMD qui est inclus justement avec la Ryzen AI, c'est 890M, je le disais, ça suffit clairement pas pour faire tourner une timeline. J'ai testé, je me suis mis en mode, parce que sur Framework on peut passer au niveau des configs, vous pouvez passer en Integrated GPU ou en hybride par défaut, c'est ce qui est actif, ou juste en IGPU dédié, donc même si la carte graphique est branchée derrière, elle est comme si elle était inactive en fait, elle est déconnectée complètement, et j'ai relancé derrière Nvidia, bon déjà les pilotes, j'ai relancé DaVinci, bon déjà les pilotes sur DaVinci Resolve au niveau AMD, c'est pas toujours la classe, et en gros, j'arrivais à rien faire tourner, même sur KDN Live, c'était un peu compliqué pour la partie Linux. Donc revenons en tout cas au 13 Pro, ce nouveau processeur va permettre donc l'autonomie, et va permettre donc un moteur graphique plus élevé. Attention, pour le moment, les créateurs qui l'ont eu, qui ont fait des vidéos dessus, n'ont pas lancé de benchmark. Ils l'ont eu un petit peu en mode, certainement avec un embargo ou un brief. Bon, bah, tu fais un peu ça, tu dis ça, mais tu fais pas de benchmark, etc. Pour le moment, nous, on veut maîtriser le benchmark, machin, peut-être, je sais pas. Mais il y a déjà des benchmarks qui sont sortis sur la partie GPU, en tout cas. On verra aussi qu'il y a des évolutions sur la partie RAM derrière. C'est plus de la DDR5. C'est un autre type de RAM, plus rapide, plus compact aussi, je crois, parce que ça prend moins de place à l'intérieur, ça se ventile mieux. Là-dessus, je ne suis pas un expert. C'est relativement récent comme techno en plus. Mais finissons déjà sur les benchmarks. Il y en a qui l'annoncent. Regardons ici. Arc B390, c'est le moteur graphique des processeurs Intel. Deux fois plus rapide que la Radeon 890M, point d'interrogation. À prendre avec des pincettes. Et donc, ils expliquent ici. Je vous mettrai peut-être l'article. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'essaierai d'y penser, de mettre cet article-là. Il n'y a pas beaucoup de sources. Il y a un leak potentiel qui vient peut-être de Reddit. Ouais, c'est pas très étoffé en termes de sourcing. Ce que l'on a de façon un peu plus certaine, c'est NanoReview ici, qui a l'air d'être un peu une référence sur cette partie-là, GPU comparaison. Et donc là, je l'ai mis par rapport au Radeon. Donc, je sais pas, au niveau workstation, donc la partie 3D modeling, vidéo editing, etc. Certes, c'est plus élevé, 25. Alors, je sais pas si 25 vous donne une puissance de x2 ou pas. Je sais pas comment c'est ramené. Il suffit pas juste de dire, bah là, il aurait fallu avoir 40, on va dire, dessus, pour pouvoir dire que c'est doublé. C'est pas vraiment comme ça que ça se compare, à mon avis. Donc voilà, certes, c'est au-dessus. C'est pas non plus fulgurant, quoi. Donc il faudra voir au moment de la sortie comment tout ça communique aussi ensemble. Parce que on peut le tester, il y a déjà des ordinateurs qui l'ont, qui ont ces nouveaux processeurs et donc ce moteur graphique B390. Il faut voir comment ça réagit aussi avec le reste. Bon, c'est plutôt le ventilo, comment il rafraîchit, etc. Parce que bah, sinon, c'est que de la RAM. Mais il faut voir aussi comment ça réagit avec le boîtier en lui-même. Est-ce qu'il refroidit suffisamment pour donner toutes les perfs, ce genre de choses. Donc voilà, il y a ça comme grosse nouveauté. L'autonomie, je le disais. Le fait qu'il y ait un moteur graphique plus puissant, qu'il faudra bien regarder au moment de la sortie. Ici, les premiers batchs, ils auraient dû être livrés. Enfin, ils vont être livrés en juin. Là, on est déjà sur un batch une semaine à peine après la sortie. On est déjà passé au deuxième batch, donc sur le mois d'août, et vous avez déjà plus le processeur X9 compatible. Après, honnêtement, on en parlait en live ce matin, parce qu'en général, on fait des lives avant de faire les vidéos, où on papote pendant une heure et demie sur les sujets, et après j'en fais un compte-rendu, là, comme c'est le cas, en vidéo derrière, un peu condensé, pour vous donner un peu juste les grandes lignes de ce qu'on s'est dit. Regardez, entre le X7, on va zoomer encore un peu plus, et le X9, vous avez juste la cadence ici, 4,8 GHz, 5,1 GHz, le reste, vous avez le même nombre de cœurs, le même nombre de threads, donc c'est vraiment, honnêtement, je suis pas un expert, dites-moi en commentaire si je dis n'importe quoi, bon, j'aurais tendance à partir plutôt, moi, sur un X7 ici, ça va pas changer la face du monde. Mais vous avez déjà de toute façon plus de dispo, parce qu'il y a souvent un truc où les gens prennent la plus grosse config. Alors, il y a un peu ce truc-là quand même, je trouve. Et Framework, à ce côté, ils ont réussi à créer une marque où il y a un engouement, où on a un peu ce côté shiny object qu'on peut retrouver avec Apple. Il y a un vrai écosystème, il y a une vraie communauté. Ils ont réussi à créer ça et donc bah, les gens ont peut-être surfé sur cette hype, donc ont pris souvent un peu les grosses configs. Donc là, au niveau de la mémoire, honnêtement, 32 gigas, je trouve que pour mon usage, ça suffit. C'est pas là-dessus qu'on va faire tourner de l'IA en local, on va pas se mentir. Vous avez la partie framework 16 avec une GPU dédiée, mais il n'y a que 8 Go de RAM dédiée à la GPU, donc c'est pas non plus avec ça. Vous pouvez, parce qu'il y a eu d'autres sorties sur framework en même temps, le brancher avec une external GPU au Q-Link. Donc là, on va commencer à discuter. Et sur le framework 16 uniquement, hein, pas sur le 13, vous allez pouvoir brancher une external GPU pour mettre des cartes graphiques. Alors, faudra juste regarder le form factor de l'adaptateur et s'il est compatible avec d'autres pour voir ce que vous pouvez mettre dedans. Mais vous allez pouvoir mettre voilà, des grosses cartes graphiques qui, elles, peuvent faire tourner peut-être 32 Go de RAM dédiées au GPU pour pouvoir aller chercher des modèles en local qui peuvent tourner convenablement. Là-dessus, honnêtement, à part vraiment de la traduction de texte, on va pas aller chercher grand chose, je pense, mais encore une fois, je suis pas un expert. 32 Go, voilà, au niveau du storage, je sais pas, on part sur 1 Go, c'est pas mal. Surtout que j'aime bien, si vous suivez la chaîne, raisonner aussi un petit peu en local first au niveau du... l'utilisation des logiciels, de se dire bah, on n'a pas forcément besoin d'un serveur de fichiers, on n'a pas forcément besoin d'un logiciel auto-hébergé pour ses notes, on peut aussi faire tourner des choses en local, oui c'est possible, avant on faisait comme ça, on synchronisait entre plusieurs devices, donc voilà, prendre un peu de capacité ici. Pareil, hein, si vous avez déjà du NVMe, alors la RAM c'est un peu difficile parce que c'est la nouvelle version, je le disais, LPCA MM2, là-dessus je suis pas un expert, donc n'hésitez pas à aller voir sur internet ce que ça vous donnera en plus, je crois qu'il y a de la compacité, il y a de la vitesse d'écriture, qui est vachement plus rapide et un meilleur refroidissement aussi, meilleure ventilation. Bon, après sur la RAM, c'est bon. En tout cas, c'est ce qui est annoncé dans ce que j'ai vu comme article. Donc voilà, donc vous pourriez pas forcément apporter votre DDR5 avec vous. Je sais pas si c'est compatible là-dessus. Faudrait regarder peut-être au niveau de la fac s'ils le disent. Qu'est-ce que voilà, il explique ici. LPCM AM22 est un module de mémoire amovible de nouvelle génération qui apporte la vitesse élevée, l'efficacité énergétique aussi. C'est aussi pour ça qu'on a ces 20 heures. RAM traditionnellement soutée dans un facteur de forme compact et évolutif. C'est vrai que c'est souvent ressorti comme les barrettes plutôt évolutives. Nous proposons des modules de 16, 32, 64. Vous pouvez également apporter et utiliser vos propres barrettes compatibles. Voilà, quelle est la mémoire compatible? Ici, il explique. À mon avis, la DDR5, on peut pas l'apporter avec nous. Puis-je rajouter de la mémoire ou de l'espace? Oui. Donc ça, c'est un peu générique. Donc vous pouvez apporter, si vous en avez déjà votre RAM, ça fait baisser le prix. En revanche, le NVMe, parfois, on l'a déjà avec tout. Surtout que si vous avez déjà un disque, peut-être pour le système, et un disque pour la data, bah ça peut être pratique. Bon, là, c'est mauvais exemple parce qu'il n'y a qu'un seul disque, donc vous pouvez pas séparer les deux au niveau physique, je parle. Mais si vous avez déjà un NVMe, vous pouvez l'apporter, le formater et réinstaller par-dessus votre OS. Ça vous fait baisser le prix, qui est quand même, si on part sur aucun et qu'on part sur 1 Tera, c'est déjà 200 euros. C'est pas ça le plus cher, mais c'est déjà 200 euros de gagner sur la config si vous apportez votre stockage. Là, bien sûr, nous, on apporte notre propre operating system. Pour ma part, Fedora. Après, vous choisissez un peu. Vous pouvez prendre Windows, hein, ils vous le feront payer. Mais out of the box, en do it yourself, ce qu'il faut savoir aussi, et ça, c'est quelque chose à noter, en pré-built, ils vous mettent, il y a un partenariat officiel avec Ubuntu. Je vous montre juste après, sinon ça va perdre ma config. On va aller jusqu'au bout ici. Voilà, on finit le bezel, on va le prendre noir, on va faire une config un petit peu prudent. Hein, French Graphite ici, au niveau de l'ordi. Sachant que vous pouvez aussi avoir... normalement un joli clavier, je sais plus où il est, blanc ISO, blanc, donc là vous rajoutez des stickers je pense, ouais là il y a déjà les stickers dessus, je sais pas trop à quoi ça correspond cette partie là, mais il y avait normalement un beau clavier orange etc, là il est plus disponible, je pense qu'ils se sont fait avoir là dessus. Après vous choisissez 4 ports, sachant que si vous avez déjà un framework, on va en parler après sur la portabilité, vous pouvez très bien ramener votre carte d'expansion. Carte d'expansion, vous savez que sur Framework, si vous ne connaissez pas ce fabricant, c'est que bah, les cartes d'extension ne sont pas, même si c'est un seul bloc, ils ont quand même réussi à rendre les choses amovibles et ils n'ont pas imposé les slots, les ports que vous avez, deux USB-C de chaque côté et c'est tout, le reste c'est mort. Là, vous en avez 4 et vous pouvez les choisir. Donc vous pouvez prendre deux USB-C par exemple, un HDMI, moi j'aurais fait une config comme ça, et un SD par exemple. Vous pouvez même choisir un 10 gigabit Ethernet compatible, il y a une petite, il dépassera un petit peu par rapport aux autres ports qui viennent épouser le bord du châssis, la carte d'expansion ici Ethernet, mais c'était déjà le cas avec la carte classique, je sais plus, elle était à 2,5 Go, elle dépassait aussi, c'était un peu... Je l'ai acheté, j'avais pas fait gaffe qu'elle dépassait, je n'avais même pas regardé la photo. Et je l'ai acheté, je me suis dit, ah ok, bon, ça peut être pratique, je la mets dans mon sac. Et après, j'échange un petit peu. C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez en acheter plus que 4 et échanger en fonction des contextes. Si vous avez besoin d'un full USB-C, vous venez plugger 4 USB-C et vous mettez votre webcam, votre micro, votre bidule. Et si vous avez besoin à un moment d'être plus en mode montage, vous mettez HDMI. Enfin bon, vous pouvez choisir et surtout si vous avez vos cartes d'expansion, vous les ramenez avec vous. C'est quand même plutôt cool. Et dans une des cartes d'expansion, si vous en prenez que 3 par exemple ici, vous prenez qu'un seul USB-C. Vous pouvez venir dire que vous rajoutez une petite extension de 250. C'est compatible avec les slots, donc vous pouvez mettre du stockage dans les cartes d'expansion. Bon, c'est pas nouveau ça, on pouvait déjà le faire avec les autres frameworks. Je trouve ça fou. Cette marque, vraiment, je la kiffe parce que c'est évolutif, réparable. Quand je dis évolutif et réparable, c'est deux choses différentes. Hein. Réparable, c'est bah, vous pétez un clavier, vous allez sur la marketplace, vous le changez. Évolutif, c'est par exemple le 13, le laptop 13, qui est compatible avec le 13 Pro. C'est portable, c'est de la portabilité, c'est que ça qui est fou. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit « Ah ben on sort le 13 Pro, ceux qui avaient le 13, bah c'est finito, hein. Débrouillez-vous, on va mettre encore pendant 4 ou 5 ans des choses sur la marketplace, mais vous, voilà, c'est un petit peu le main produit sera maintenant le 13 Pro. » Non, non, ils ont fait en sorte, et on va le voir tout de suite, donc là on finit là-dessus, 2604€, vous voyez si vous avez une config comme ça, ce qui n'est pas si cher que ça, c'est sûr que à ISO config sur du Lenovo, par exemple, vous paierez peut-être moins cher. Le problème c'est que le Lenovo, dans 5 ans, il n'est pas réparable. C'est fini les ThinkPad à l'ancienne, les T480, là, vous le jetiez sur une enclume, c'était l'enclume qui se cassait et vous pouviez tout changer à l'intérieur, ouvrir les vis, nanana, vous changiez tout. Ça, c'est fini sur les Lenovo. Hein. Ça va peut-être revenir, mais c'est un petit peu des produits classiques, on va dire, un petit peu du même niveau que les autres laptops qui n'ont plus du tout cette fibre réparable, durable, comme on pouvait avoir, comme je le disais, sur les anciens modèles. C'est plus du tout ça. Donc, vous voyez, 2604€, bien sûr, vous pouvez trouver moins cher. Dans 4 ans, ils sortent le 13 Pro, je sais pas quoi. Bah, ils vont vous mettre votre carte mère, vous allez le mettre dans le nouveau boîtier, vice-versa, dans un sens, dans l'autre, etc. Justement, ça fait une transition toute faite. Si on retourne ici sur la config du 13 Pro, sur la fiche pardon technique du 13 Pro, regardez, passer à la version Pro, passer à la nouvelle génération, ils vous le disent, depuis 2021, il y a déjà eu 13 évolutions, il y a déjà eu, non pardon, 7 évolutions je crois, du framework 13, l'ancien. 7 évolutions, ouais si c'est ça, je crois même un peu plus, et vous pouvez rendre les deux compatibles. Compatibilité entre le framework laptop 13 et le 13 Pro, c'est compatible sur la carte mère, sur le kit écran, donc vous pouvez très bien aussi racheter juste un, vous prenez votre carte mère, vous l'enlevez du châssis 13, vous prenez un kit écran, etc. Le kit capot clavier, bon, vous reconstruisez, après ça peut venir presque aussi cher, vous payez pas la carte mère malgré tout, ce qui est quand même un sacré, une grosse partie dans le budget. Les batteries haut-parleurs, oui, mais attention, il y a un kit nécessaire qu'il faut prendre en plus, ah, et bien sûr, il vous donne la possibilité de le faire, mais voilà, il y a des kits. Le châssis, regardez, vous pouvez quasiment tout faire, sauf radiateur et ventilateur. Ça, c'est la seule chose qui n'est pas portable. Non, ceux-ci sont propres à chaque génération de carte mère. Un nouveau kit ventilateur est inclus avec la carte mère Pro du nouveau. Donc, il faut racheter la carte mère Pro directement dans la marketplace. Ce qui n'a plus, du coup aucun intérêt de passer sur le nouveau modèle. Ils ont même fait une vidéo, je vous mettrai derrière, mais c'est sur le site, hein, comment upgrader de l'un vers l'autre. Si vous prenez votre carte mère, vous la basculez, etc. Ce que vous pouvez récupérer, pas récupérer. Et du coup, bah, c'est ça, hein, la portabilité, la durabilité, la réparabilité, c'est deux choses différentes. Vous auriez pu réparer votre 13, là vous pouvez carrément le porter sur un 13 Pro. Donc voilà au niveau des prix, on a vu aussi la partie portabilité entre les deux. Ce que l'on sait à date au niveau de la compatibilité Linux, c'est que bah, y a Ubuntu qui est pris en charge parce que vous avez aussi une version, je regarde aussi un petit peu le temps de la vidéo, quasiment 20 minutes, ça va faire 20 minutes, c'est très bien. 20 minutes c'est bien pour une petite vidéo comme ça de récap. J'essaierai de mettre des chapitres. Vous voyez, si vous prenez une version pré-built, donc vous embêtez pas à tout choisir vous-même, hein, il vous fait une config un peu de base, vous pouvez out of the box prendre Ubuntu parce qu'ils ont annoncé au moment de la keynote un partenariat officiel avec Ubuntu. Ça veut pas dire qu'il y a que Ubuntu qui est pris en charge, bien sûr, hein, si vous connaissez un peu l'écosystème, vous savez que ça veut pas du tout dire ça. En général, eux, ils prennent en charge Fedora, Basit, out of the box, Ubuntu, et ça sera le cas, à mon avis, sur les laptops. La communauté prend en charge derrière, je sais plus où est-ce qu'ils le disent, on a vachement zoomé là, je sais plus où est-ce qu'ils le disent cette partie là au niveau Linux, je crois que c'est un peu plus bas, ouais, Ubuntu, Fedora, Basit, CatchOS, NixOS, soit pris en charge out of the box, soit par la communauté, si on prend par exemple le laptop 16 ici au niveau de En Savoir Plus, ou même le laptop 13, hein, plutôt l'ancien, vous avez un onglet Linux qui n'a pas encore été mis à jour pour le 13, ben, je suis passé sur le 13 Pro, on va partir sur le 13, Ici, Linux, vous voyez, vous avez Fedora, Ubuntu, Basit, out of the box, officiellement pris en charge, fonctionne dès la sortie de la boîte. C'est-à-dire qu'ils ont déjà tout prévu pour que ça fonctionne sans que vous ayez besoin de bidouiller. Vous savez que parfois avec Linux, c'est pas vraiment de la bidouille, mais vous installez ça sur un ordi, à qui aller chercher les pilotes, à qui aller chercher ça, machin, le lecteur d'empreintes, bidule, voilà. Vous savez qu'il y a des petites choses à faire, là, ça fonctionne dès la sortie, c'est stable, c'est stable, c'est stable. Et vous avez la communauté qui prend en charge Arch Linux, un peu certains risques, difficultés moyennes, mais bon, dès que vous passez sur Arch Linux, en tout cas, les risques ne vous font pas peur. Vous allez les lever sans problème. Et NixOS, qui est un OS hyper intéressant. Peut-être qu'on fera une vidéo sur la chaîne, parce que si vous avez plusieurs ordi, la config est portable, et c'est un fichier, en fait, dans lequel il y a toute la config dedans, et vous pouvez porter votre fichier d'un ordi à l'autre, et c'est vraiment pratique. Moi, par exemple, qui ai deux ordi, j'ai justement un ThinkPad T480 que j'emmène parfois, c'est un peu ma décapotable du week-end, que j'emmène parfois, bon bah dès que j'installe quelque chose et que j'ai envie de récupérer sur mon ordi, il faut refaire la config, etc. Voilà. NixOS, c'est intéressant pour ça. On m'a fait la remarque dans le chat ce matin. Et effectivement, ça va valoir le coup de se poser dessus. Voilà, on a fait un bon tour. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette petite marque d'ordinateur. Si vous connaissiez, si vous découvrez avec 13 Pro, parce qu'il y a une couverture médiatique bien sympa, mettez plein de likes sur la vidéo. Comme ça, j'essaie d'aller gratter une version pré-release avant juin ou même août pour pouvoir la tester. Après, je leur rends, bien sûr. Moi, j'ai déjà mon ordi et je peux pas. Le 13 Pro ne me suffira pas entièrement pour toute la partie graphique dont je parlais. Ça suffira pas, je pense. Mais ça pourrait être intéressant de le tester justement jusqu'où on peut aller sur vraiment une partie créateur de contenu. Justement, je vous envoie sur une petite vidéo que j'ai faite et qui explique tout mon passage sur Framework. J'étais sur MacBook Pro, je suis passé sur Framework, en même temps je suis passé sur Linux, du coup bah, j'ai abandonné macOS forcément, même si j'avais une version Fedora Mac. Bon, c'était juste pour m'amuser parce que tout n'était pas pris en charge. Je vous envoie vers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de sujet vous plaît. Je parle de logiciels open source, logiciels libres, indépendance numérique, Home Lab, Home Server. À bientôt.